Salut, je m'appelle Joëlle et j'anime le podcast Un instant innovant. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que l'excellence est toujours un mot qu'on devrait utiliser dans l'organisation? Est-ce que l'excellence empêche l'innovation? Donc, on se questionne un petit peu là-dessus aujourd'hui. Je vous présente tout de suite mes co-animatrices pour cet épisode. Caroline, bonjour Caroline.
Salut les filles.
Et Sarah, bonjour Sarah.
Hello.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait vous, premièrement, remercier les gens qui nous ont déjà accordé des étoiles, qui se sont déjà abonnés à notre podcast. Sarah, si les gens veulent faire ça, ils font ça à quel endroit?
Donc, sur la plateforme de votre téléphone, soit iTunes ou Google Play. Sinon, vous pouvez aller nous chercher aussi sur YouTube. On est là maintenant. On est sur Spotify, sur notre site web, un peu partout. Puis même sur les réseaux sociaux, on aime ça quand les gens, même des fois, les gens sont plus gênés, nous écrivent directement. Sentez-vous bien aise de nous écrire.
Super, merci beaucoup. Alors, on entre dans le vif de notre sujet. On s'est posé la question aujourd'hui avec toutes les données qui sortent, les études qui sortent, qui démontrent l'anxiété qu'on a dans nos organisations, les enfants à l'école. C'est comme le mot le plus important, le mal le plus important de notre décennie, l'anxiété. Et on s'est demandé, est-ce qu'il y a une cause qui vient en lien avec la recherche de l'excellence? La recherche de l'excellence, c'est vrai dans nos organisations. On le sent aussi chez nos enfants à l'école. Donc, il y a comme un lien qui se produit, là, les enfants qui se retrouvent sur le marché du travail par la suite. Et est-ce que c'est la bonne approche? On a beaucoup parlé d'excellence dans les dernières décennies. Ça faisait partie des missions, des valeurs de l'organisation. Mm-hmm. La vision, on voulait être le meilleur en Amérique du Nord. On voulait être le leader mondial de notre domaine, etc. Est-ce que ça a que du bon? Est-ce qu'on devrait plutôt réfléchir à une façon un peu différente de fonctionner dans notre organisation? Puis est-ce que ça empêche l'innovation? Donc, c'est un peu la question qu'on s'est posée aujourd'hui.
C'est dans l'air du temps, hein? Puis il n'y a pas que les petites organisations qui se posent ces questions-là puis qui remettent en question, tu sais, sans dire nécessairement on remet en question l'excellence. On entend de plus en plus parler d'agilité. Puis dans les processus agiles, il y a place un peu à l'erreur. Fait que c'est un peu en opposition avec le discours d'excellence. Vous, spontanément, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez l'impression que le fait de mettre la pression sur l'excellence, ça fait en sorte qu'on est tellement anxieux puis stressé de mal faire, finalement, qu'on n'ose pas innover, dire des nouvelles idées? Qu'est-ce que vous avez observé?
Mais c'est vrai qu'on dirait que c'est comme un terme qu'on a accepté puis qui faisait partie du langage, j'ai l'impression, depuis plusieurs années avec des livres comme Good to Great ou d'autres genres de lectures de la sorte. Fait qu'on dirait que jusqu'à récemment, je peux pas dire que je m'étais tant que ça remis en question. Pour moi, c'était comme pour être capable comme organisation ou comme employé de se distinguer, de faire notre place. On dirait que c'était comme
le marché demande ça.
Oui, c'est ça. On avait comme pas le choix là d'être excellent. Mais c'est drôle, avant de faire l'émission, je regardais un peu la définition, de revenir un peu à la base de ce que c'est. Puis j'avoue que bon, quand on parle de qualité supérieure, imminente, au-dessus de extrêmement bon. C'est un peu les genres de définitions que je trouvais. Je me disais, ouais, c'est vrai que ça met beaucoup de pression sur les organisations, beaucoup de pression sur les employés. Puis tu parlais d'amélioration continue. Il y a plusieurs années, tu sais, je pense que ce qui faisait partie des pratiques des organisations, c'était des approches un peu comme les Kaizen, par exemple, mm-hmm. où on devait analyser pendant, on enfermait des gens pendant une semaine à analyser toutes les informations qu'on avait pour arriver à trouver la bonne solution qui serait parfaite puis qu'on pourrait déployer. Puis de plus en plus, tu parlais d'agile ou de d'autres types de processus d'amélioration continue comme le PDSC ou autre, où c'est vraiment beaucoup plus de petits cycles, pas d'essais-erreurs, mais de tests. Puis
c'est qu'on on lance, dans le fond, on peut le faire de plusieurs façons, mais tu sais, disons, travailler en mode agile, si on regarde au niveau, mettons, technologique, tout mm-hmm. ça, juste pour que les gens comprennent, l'idée, c'est de dire, on n'attendra pas, un peu à l'inverse de ton Kaizen, d'avoir la solution parfaite, excellente, finale, avant de tester des choses, puis d'avoir un peu une rétroaction, soit du marché ou des utilisateurs. puis on bâtit un peu comme finalement avec les utilisateurs pour voir un peu ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien, au lieu de passer plein de temps puis d'avoir des efforts comme un peu perdus. Puis une des choses qui fait qu'on est rendu là comme société, c'est parce que les choses vont tellement vite aussi que, tu sais, si t'attends que ton produit soit final et parfait, ben t'as le temps de te faire dépasser par la compétition pendant longtemps, mais ça l'implique un peu de
se tromper puis de faire des erreurs. Mais je pense qu'il y a un élément d'humilité là-dedans. Je pense que à l'époque, quand on voulait développer une solution, que ça soit dans la technologie ou dans d'autres types de production, d'outils, de manufacturiers, etc., on voulait s'assurer de livrer le produit parfait. Puis je pense que aujourd'hui, on s'assure plutôt de livrer le produit qui répond réellement aux besoins du consommateur. Mmh. Puis on a arrêté de prétendre qu'on sait ce que le consommateur veut ou a de besoin, puis on veut plutôt aller le consulter, aller l'impliquer dans la démarche. Puis pour ça, ben il faut être très humble et de pouvoir dire on le sait pas, on n'a pas la réponse à tout. On va commencer avec quelque chose. On appelle souvent ça un MVP, là, un Minimal Viable Product, oui. Un terme qui vient justement plus des TI. On a un produit de départ, on part avec ça, on lance, on sait qu'il est pas parfait, puis on l'améliore au fur et à mesure avec l'aide de nos clients. C'est une meilleure façon de pas se tromper. Puis c'est souvent le ben en fait c'est à la base du lean startup qui propose justement une façon moins risquée de démarrer en affaires finalement.
Puis tu sais souvent il y a des organisations tu sais par expérience qui se disent ben tu sais OK oui je comprends mais mettons nous dans notre domaine on peut pas se permettre de faire des erreurs tu sais soit parce qu'on touche je sais pas là tu sais à des données financières, des trucs sensibles. Il faut faire attention, il y a une différence entre lancer quelque chose de tout croche qui est pas solide, tu sais, du point de vue de data, puis être en mode, tu sais, agile au niveau, c'est ça. Puis, tu sais, même les grands assureurs le font, ils fonctionnent comme ça maintenant, tu sais. Puis des fois, tu peux déployer, tu sais, plus par phase, puis tu sais, c'est rare. Fait que bref, tu sais, je pense qu'il y a place à ça, peu importe le style d'organisation. Ça veut pas dire qu'on devient plus bon, puis même on souvent dans les organisations, ce qu'on va dire, c'est on veut être à la fois agile et excellent.
C'est un peu en contradiction. Moi, ce que j'ai envie de peut-être de vous entendre, c'est sur le sujet de la rigueur versus l'excellence. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on a tendance à vouloir rechercher, c'est la perfection. Mm-hmm. Puis c'est peut-être quelque chose qui est pas très réaliste dans la perfection, on le sait, ça n'existe pas. On veut par contre faire preuve de rigueur. On veut pas, comme tu dis, lancer n'importe quoi, un peu tout croche sur le marché, ou de rendre des services quand on est dans les services qui sont peut-être pas à la hauteur de ce qui peut être attendu de nos clients. Mais il y a un good enough. À un moment donné, il y a une étape où on doit se dire, je pense qu'on a fait le mieux qu'on pouvait pour notre client ou comme produit, par exemple, puis on doit être content avec cet aspect-là. Je pense qu'il y a un lien à faire aussi avec tout l'aspect de la santé mentale. Quand on parle avec des psychologues qui vont traiter les gens qui sont très, très anxieux, surtout les anxieux de performance, ils vont essayer de travailler avec la personne pour qu'elle accepte le good enough et qu'elle ne recherche pas la perfection à tout prix. C'est ce qui nous rend vraiment très malheureux dans la vie. Donc, pour un peu protéger aussi l'équilibre psychologique de nos employés, je pense que c'est important d'inculquer cette notion-là de good enough, donc d'être rigoureux, mais sans nécessairement chercher la perfection et d'avoir droit à faire des erreurs. C'est en faisant des essais qu'on découvre des choses. Puis c'est un peu la question qu'on s'est posée par rapport à l'innovation. Comment est-ce qu'on peut trouver des nouvelles façons de fonctionner, développer des nouveaux outils si on se donne pas le droit à l'erreur? La science fonctionne de cette façon-là, en fait.
Tout à fait.
J'ai l'impression que l'excellence générait souvent pour les organisations ou les employés beaucoup de fierté. En fait, si on est fier d'être excellent. C'est pour ça qu'on le retrouve parfois là, dans nos missions ou dans nos valeurs. Mais vous en aviez parlé dans un podcast précédent, tu sais, mais je suis pas sûre que nécessairement
le sens, exactement.
Je suis pas sûre que tu sais ça génère de la fierté l'excellence, mais je suis pas sûre que ça génère nécessairement du sens parce qu'on est excellent pour qui, pourquoi, en même, même temps, pense, c'est relatif
aussi.
J'ai
envie de dire, c'est dangereux. Parce que quand, des fois, t'as des gens qui embarquent à fond là-dedans, qui sont vraiment dédiés, qui vont dire, ben, tu sais, moi, j'y crois, on est les meilleurs, je vise l'excellence, moi, puis tu sais, il y a une question d'ambition là-dedans, puis tu sais, quand t'embarques un peu là-dedans, il y a le danger de se réveiller un jour puis dire, ben, tu sais, pourquoi je fais ça finalement, puis... je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent que finalement ça fait un peu le contraire, c'est que tu sais il y a tellement pas, comme tu dis, un peu de, il y a pas le why ou le sens de ce qu'on fait. Fait que j'ai l'impression que c'est un discours qui peut être justement générateur de soit de brownout ou de burnout à force là de demander ça des gens. Puis des fois on, en gang, on se fait croire que qu'on est meilleur ou que ce qu'on fait c'est donc important puis tout ça. Fait que tu sais, je pense qu'il y a un danger de tomber dans ça là.
Puis je pense que la difficulté qu'on a aussi dans nos organisations à voir les choses un peu autrement, c'est que ça part très tôt, hein, quand on constate là que dès la petite enfance, dès la période, tu sais, scolaire, on s'attend à tellement de nos enfants. Mmh.
Si une pression sociale.
Énorme.
Presque à la naissance.
Oui, puis c'est pas pour rien qu'il y a un fléau d'anxiété chez les enfants d'âge scolaire aujourd'hui, puis on le constate, ça crée toutes sortes de problématiques, des crises d'angoisse, des problématiques de santé mentale de plus en plus jeunes reliées à l'anxiété. Donc, je pense que c'est si on a une prise de conscience qui se fait déjà au niveau des organisations, qu'on travaille un petit peu sur cet aspect-là de est-ce que c'est correct de permettre l'erreur, est-ce que c'est correct de
c'est
pas
peut-être
être parfait.
De la baliser aussi. Mm-hmm. Quelle erreur on est prêt à prendre? Quel risque comme organisation on est prêt à prendre? Parce que c'est pas tout le monde dans son coin qui essaye des affaires puis qui fait un peu n'importe quoi. Fait que, est-ce qu'on peut se donner une politique soit d'innovation ou d'erreur, puis de se dire, ben on accepte l'erreur collectivement tant que tu as consulté les gens, tu sais, un peu pour revenir à ton idée de rigueur, là, mm-hmm. de maintenir un peu ces attentes-là entre nous, mais...
D'avoir fait son mieux, en fait. Je pense que l'idée, c'est si tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais comme information, avec l'aide que tu avais, que tu pouvais aller chercher, avec les ressources que tu avais, ben c'était ça la bonne façon de s'y prendre. Puis peut-être que tu t'es trompé, peut-être que c'était pas finalement la bonne réponse ou que c'était pas la bonne approche, mais on le sait, on l'apprend, puis la fois suivante, on fait différemment. Mais je pense qu'il faut être réaliste dans nos attentes. Si, c'est un peu la recette, on a parlé dans le passé, la recette du burn-out, en fait, c'est de donner des objectifs irréalistes avec pas les moyens pour être capable de les atteindre. Puis je pense que dans cette notion-là de quête de l'excellence, il y a la recette parfaite pour arriver à cette problématique-là.
Tout à fait.
C'est important, je pense, de passer le message aux gens que ils ont des ressources, des fois un peu limitées dans les organisations, ils ont des connaissances et ils sont en apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'ils connaissent tout et qu'ils savent tout dès leur arrivée en poste.
Puis même jamais. T'sais, c'est jamais, intéressant. On entend souvent parler d'organisation apprenante ou de l'importance de garder le mindset d'un étudiant. C'est un peu le contraire de se proclamer super spécialiste puis d'être excellent. Fait que, tu sais, il y a comme un...
Oui, puis le développement des compétences est tellement un élément important pour les employés aujourd'hui. C'est un élément d'attraction, de rétention, d'engagement, de mobilisation. Les gens ont soif de se développer et d'apprendre, mais se développer, je pense que c'est correct de s'attendre à ce que les gens apprennent, les gens se développent, les gens deviennent de meilleur en meilleur à faire ce qu'ils font. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'attendre à ce que les gens souhaitent avoir une certaine réalisation de soi, de s'améliorer,
oui.
Mais pas nécessairement dans une optique d'être parfait tout le temps, à tout moment.
Fait que pour une organisation, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif, tu sais, parce que malgré tout, on doit se renouveler, on doit suivre la parade, mm-hmm. Le marché va rapidement si on veut garder notre place. Donc, si c'est pas l'excellence qu'on vise, qu'est-ce qu'on vise à ce moment-là? de s'améliorer, de...
Ouais, je pense que c'est beaucoup, c'est très subtil, hein. Une culture organisationnelle, là, ça repose sur un certain nombre d'éléments, hein. C'est les messages qu'on envoie à travers, justement, la mission, la vision, les valeurs, mais aussi les mots qu'on utilise au quotidien, les objectifs qu'on donne aux employés, mais aussi la façon qu'on reconnaît les gens dans l'organisation. Donc, si on reconnaît sans arrêt les gens qui, travaillent beaucoup, beaucoup et qui vont toujours chercher à être parfaits, des fois au détriment de d'autres personnes autour d'eux.
Il y a une question d'attitude aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on valorise comme attitude? Là, t'as raison.
Oui,
que...
versus ceux qui essayent des choses, qui prennent des chances, qui prennent des risques. Voilà.
Est-ce que ça se peut aussi que, tu sais, quelque part, on peut tous aussi avoir notre propre définition de l'excellence, tu sais, parce que sans... tu sais, je pense que l'excellence doit être adaptée au contexte. Je pense à nous, par exemple, on travaille principalement avec la petite moyenne organisation. Donc, si on veut prétendre que nos solutions ou nos services sont excellents ou très bons, c'est probablement pas la même chose ou la même définition parce qu'on travaille en fonction d'un budget qui est parfois des fois un peu plus limité ou un contexte X, Y, Z. Donc, est-ce que chaque organisation, puis peut-être que le mot excellent est pas le bon parce qu'il peut être péjoratif, mais c'est quoi est-ce que chaque organisation ou chaque contexte devrait définir qu'est-ce que c'est la qualité attendue? Parce que dans certains cas, tu sais, si on pense par exemple dans un contexte, je sais pas, mais médical où on joue avec la santé des gens ou peu importe, c'est sûr que la place à l'erreur, elle est beaucoup plus ou tu sais, des ingénieurs en structure où on
je pense que... Oui, il y a certaines erreurs qu'on peut pas se permettre puis qu'on n'ira jamais là.
Exactement, tu sais, puis dans d'autres contextes, des fois... trop de qualité ou trop de perfection ou trop de détails, ça va être nuisible. Tu sais, je pense à des fois des clients, si on leur arrive avec un rapport de 40 pages qui leur coûte très cher, pour eux, ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc, ça a beau être excellent, peut-être objectivement, ça répond pas aux besoins à ce moment-là. Donc, tu sais, je pense que...
T'as raison, ça doit être adapté, cette notion-là, à chaque contexte, à chaque organisation. Je pense à ce que tu disais là, par rapport aux organisations qui sont dans des contextes où l'erreur est peut-être moins permise. Je pense que l'organisation a une certaine obligation de mettre des processus ou des balises qui vont faire en sorte qu'on prévient les erreurs. Mais, tu sais, je pense qu'il ne faut pas oublier le dicton qui dit « l'erreur est humaine ». Il reste qu'un être humain va toujours en faire des erreurs, même dans des contextes où on n'a pas le droit à l'erreur. Je pense que ça devient une responsabilité de l'organisation de mettre ce qu'il faut en place pour les prévenir, ces erreurs-là. Mais au contraire, il y a d'autres organisations qui sont plus justement dans l'innovation, dans l'agilité ou même dans la recherche. Hein? Puis il faut faire des erreurs si on veut pouvoir apprendre et avancer, proposer des solutions qui sont créatives, qui sortent un peu des sentiers battus. Là.
C'est ça. Puis l'excellence, c'est que c'est pas nécessairement une fin en soi. Puis oui, l'adapter au contexte des organisations, des clients, mais aussi des employés, j'ai envie de dire, parce que c'est pas tout le monde qui a la même ambition ou qui a envie de donner la même place au travail dans leur vie. Fait que tu sais, d'avoir cette espèce d'ouverture-là envers les gens, hein, pour comme moduler nous aussi nos attentes envers les employés, je pense que ça peut être intéressant à réfléchir aussi.
Fait que si on avait des conseils à donner justement aux organisations par rapport à ce sujet-là, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme message ou comme suggestion?
Oui, c'est ça. Je pense qu'ils pourraient réfléchir un petit peu à, justement, quand ils font leur programme d'évaluation de la performance, qu'est-ce qu'ils reconnaissent, tu sais, qu'est-ce qui est inclus dans ces éléments-là, quels sont les critères sur lesquels on évalue la performance des gens. Est-ce que c'est justement l'aspect perfection qui va être reconnu ou c'est plutôt la prise de risque? Est-ce que c'est plutôt d'avoir essayé des choses, d'avoir donné le meilleur de soi-même, d'avoir développé ses compétences, d'avoir été chercher des formations supplémentaires, des choses comme ça. Donc, je pense que ça, c'est un élément facile, je pense, à mettre en place là, au niveau des organisations.
Moi, j'aimais aussi beaucoup le point que tu avais amené, Sarah, par rapport à, tu sais, au mécanisme ou paramètres pour permettre l'innovation. Tu sais, je pense que on peut prendre des risques. En fait, tu parlais d'erreurs, mais moi, je pense que c'est surtout les risques qu'on peut contrôler ou accepter.
T'as raison.
Puis on peut se trouver des mécanismes ou, tu sais, des étapes, structurer cette prise de risque-là. Donc, si t'es allé consulter, par exemple, je sais pas, moi, 3 personnes, ou si t'es allé consulter les personnes qui ont l'information, que t'as validé ton idée avec X nombre de personnes, que t'as fait un petit test avec un groupe restreint, puis qu'après ça, tu y vas, ben, c'est correct, tu as fait comme toutes les étapes nécessaires pour être capable de tester certaines choses.
C'est une très bonne idée.
Donc, ça peut être une façon de permettre aux gens de prendre des risques, mais dans une certaine mesure contrôlée.
Dans les missions, visions, valeurs, tu sais, des fois peut-être réfléchir un peu au poids que les mots peuvent avoir, puis de s'assurer est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut dire. Tu sais, il y en a beaucoup là, des organisations qui ont le mot excellence soit dans leur valeur ou dans leur mission. Fait que c'est peut-être de juste prendre un petit pas de recul puis de voir un peu ce que ça a comme effet chez les gens, puis est-ce que c'est ça, est-ce qu'on
puis peut-être le préciser, tu dire l'excellence, mais
ça veut dire quoi,
ça veut dire quoi vraiment, parce que c'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses. Là.
Absolument. Ouais. C'était très intéressant comme discussion, les filles. On voit que c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe et qu'on doit poursuivre comme réflexion en tant qu'organisation dans le futur. Merci beaucoup. On se reprend pour un prochain épisode.
Un autre excellent podcast.
Exactement. Tu as tout à fait raison. Sarah, si les gens veulent nous retrouver pour d'autres super excellent podcast, épisode de podcast, ils font ça où?
Où ils veulent. Donc, n'importe quelle plateforme, presque, suivez-nous, encouragez-nous, s'il vous plaît, on a besoin d'amour. Non, mais c'est, dans le fond, mettez-nous à votre liste de podcasts, puis écrivez-nous si vous avez des idées.
Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter notre podcast et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.
Salut!
Merci, bye!